Donc une retraite, c'est un temps de repos spirituel, physique aussi, j'espère. Ça dépend à quelle heure vous vous levez d'habitude. Donc la condition pour faire une bonne retraite, c'est vrai que c'est de bien manger, bien dormir, se détendre et puis surtout prier. Enfin, faciliter en tout cas le repos des autres aussi, donc autant que possible. Également, pour faire une bonne retraite, c'est important de prendre l'air, c'est important de s'aérer, parce que il y a une certaine tension qui peut être liée au fait qu'on désire donc d'être bien uni au bon Dieu, bien prier. Il y a aussi les instructions qui exigent l'attention, vous voyez. Et comme on n'est pas des purs esprits, ben on a aussi besoin de se détendre physiquement. Profitez-en. Vous pouvez aussi descendre, d'ailleurs aussi, en descendant par le petit portail qui est là. Vous pouvez descendre après dans le bois. Donc, nous avons aussi un cimetière en bas. Vous pourrez aussi vous recueillir. Je trouve spécialement Monsieur l'abbé Bazire était ordonné prêtre il y a 20 ans et qui inhumait ici, et sa maman suit la retraite ici en ce moment parmi nous. Pour aussi bien suivre la retraite, en dehors des instructions, vous pouvez emprunter des livres. Donc il y a des livres d'emprunt. C'est pas la peine de, bien sûr, passer tous ces temps libres à lire. Il ne s'agit pas d'avaler des bouquins. C'est pas le but premier d'une retraite. Mais un bon livre peut aussi être un bon compagnon pendant une retraite. Donc essayez de profiter aussi de vos temps libres pour cela. Pour aussi bien faire une retraite, ça peut être bien de voir régulièrement un prêtre. Donc, ne pas hésiter à voir les prêtres pendant la retraite. Et spécialement s'il y a des moments où ça va un petit peu moins bien. Même si je ne sais pas qu'est-ce que vous avez à dire, c'est pas grave, on a l'habitude, donc on vous aidera. Mais c'est vrai que c'est important parce que ça arrive, spécialement les plus jeunes n'osent pas toujours, qu'est-ce que je vais lui dire, ils ne savent pas trop, et du coup, après, ils restent avec des pensées qui ne sont pas toujours... Normalement, donc, il y aura une retraitante que je n'ai pas encore choisie, mais qui devra sonner la cloche le matin. Donc, vous serez réveillé le matin au son de la cloche. Voilà. Alors maintenant, passons à des considérations quand même un peu plus spirituelles. Au début d'une retraite, donc pour essayer de bien la suivre, je pense qu'il est bon de se mettre auprès de notre Seigneur. C'est lui, ben c'est le Saint-Esprit, bien sûr, qui vous a inspiré cette retraite, mais c'est aussi notre Seigneur. Et c'est de lui que vous désirez vous rapprocher. Et si vous allez résumer un petit peu ce qu'est une retraite consiste à essayer de vivre un peu plus près de notre Seigneur, vous voyez. Dans le but de manifester davantage notre amour, notre foi, bien sûr, en lui, notre espérance, notre amour, et dans le but de, ben aussi de prendre conseil auprès de lui, de voir ce qui lui plaît dans notre vie et ce qui serait encore à améliorer pour que notre vie soit meilleure. Oui. Une retraite, c'est vraiment cela. Et la retraite sera réussie si à la fin de la retraite, eh bien, vous vous êtes réellement rapproché de lui. Alors, bien sûr que cette approche... Parfois, pour certaines âmes, peut être plus ou moins sensible, mais quand bien même vous n'auriez pas ressenti dans votre sensibilité cette présence, hein, si vous avez porté un regard de foi plus profond sur lui, eh bien certainement qu'il y aura des effets positifs sur vous-même. D'ailleurs, on le voit à chaque retraite. Et se rapprocher de notre Seigneur, ça veut dire donc essayer de porter sur lui un regard de foi. Et porter sur lui, donc par exemple présent au Saint-Sacrement, sur lui aussi présent dans notre âme, sur lui également, dans la mesure où il a vécu il y a 2000 ans, et aujourd'hui il est toujours présent. Donc tous les actes qu'il a posés il y a 2000 ans sont d'une certaine manière intemporels, c'est-à-dire que ce que notre Seigneur a fait il y a 2000 ans pour ses contemporains, il veut le refaire aujourd'hui. Oui, notre Seigneur a manifesté son amour lorsqu'il était sur la terre, et bien aujourd'hui encore, notre Seigneur veut nous manifester son amour. Et l'attitude qu'il a eue vis-à-vis de ses contemporains, cette attitude-là est vraiment l'attitude qu'il a aujourd'hui vis-à-vis de nous. Vous voyez. Et de la même manière aussi que parmi ses contemporains, les uns sont passés à côté de lui sans le voir, d'autres l'ont même injurié, ont blasphémé, et d'autres au contraire sont approchés davantage de lui, ont vécu vraiment près de lui. Vous voyez. Et bien aujourd'hui, il en est de même. Alors, on ressent tous que dans la vie actuelle, la vie trépidante du monde moderne, même si on croit en notre Seigneur, si on croit en Dieu, on a souvent du mal à vivre autant qu'on le souhaiterait au moins, et autant qu'on pense qu'on le devrait auprès de notre Seigneur. Alors, une retraite est là pour au moins se dire, moi je voudrais que ces quelques jours de ma vie que j'aurais passé dans cette retraite soient vraiment des jours où je me serais vraiment rapproché de notre Seigneur. Ouais. Donc... Donc il ne s'agit pas tant de vouloir faire beaucoup de choses dans une retraite, plutôt que de se laisser conduire par notre Seigneur qui vous a conduit ici, et pour essayer vraiment de vivre un petit peu plus près de lui. Oui. Pour porter sur vous-même le regard qu'il porte sur vous. C'est, notre Seigneur porte un regard personnel sur chacun. Notre Seigneur a un but particulier. On a chacun notre vocation. Et il y a une vocation générale, donc vocation au mariage, vocation à rester dans le monde comme célibataire, vocation dans la vie religieuse. Mais ensuite, il y a une vocation après plus précise. Donc, notre Seigneur attend de chacun d'entre nous. On a une mission à accomplir ici-bas. Et donc, il est important de se rapprocher de lui pour voir un petit peu plus ce qu'il attend de nous. Donc, voir ce qui lui plaît dans notre vie et ce qui serait encore amélioré pour que notre vie lui soit plus agréable. Et on peut dire aussi que dans notre vie, eh bien, on est appelé à imiter notre Seigneur et imiter notre Seigneur dans les différentes phases de sa vie. Notre Seigneur, donc, a été enfant, nous avons été enfants, donc notre Seigneur est passé donc par tous les stades de la vie. Et notre Seigneur a connu des périodes de joie, de paix, et puis des périodes aussi après de souffrance. Mais dans notre vie, on passe aussi par ces différentes étapes. Et spécialement, notre Seigneur a voulu lui-même passer par une retraite. Alors, puisqu'on est en retraite, c'est intéressant de voir un petit peu cette retraite vécue par notre Seigneur. Si notre Seigneur, vous voyez, a tenu à passer 40 jours en retraite avant son ministère apostolique, ce n'était pas en soi parce que ça lui était nécessaire. Oui, j'ai besoin de me recueillir parce qu'en ce moment, je suis dispersé. Ben non, notre Seigneur est Dieu. Il était toujours, il voyait Dieu son Père en permanence. Il avait la vision béatifique. Mais c'est pour donner l'exemple, vous voyez, qu'il s'est retiré au désert. Et donc la phrase qui décrit cet épisode de la vie de notre Seigneur en Saint-Luc, il est dit « Jésus, plein de l'Esprit-Saint, fut conduit par l'Esprit dans le désert pendant 40 jours et il fut tenté par le diable. » Donc, il est dit que c'est par le Saint-Esprit que notre Seigneur a été conduit. Le Seigneur était bien sûr toujours guidé par le Saint-Esprit. Mais c'est aussi certainement l'Esprit-Saint qui vous a conduit durant cette retraite. C'est pour ça que c'est lui que nous avons invoqué tout à l'heure au début de la retraite. Il est dit dans le livre d'Osée, un passage de l'Ancien Testament, « Je la conduirai au désert et je lui parlerai au cœur. » Et bien certainement, le Seigneur voyez, vous a conduit dans ce Flavigny, qui est une espèce de désert intérieur, au moins pour vous-même, dans le but de vous parler au cœur. Alors notre Seigneur va vous parler par les prédications, il vous parlera aussi par des lectures que nous aurons à table, beaucoup de passages spécialement de Mgr Lefebvre, mais aussi d'autres lectures. Il vous parlera à travers les lectures personnelles, et il parlera aussi dans les moments de silence, par ce cœur à cœur personnel que vous aurez donc avec Dieu dans l'Église, ou même après dehors, donc suivant... voilà. Donc ayez vraiment ce désir d'entendre notre Seigneur. Pensez que c'est lui qui vous a conduit ici et qu'il veut vous parler. Et ensuite, il est dit « dans un désert ». Donc si notre Seigneur a voulu se retirer au désert, c'est parce qu'une condition pour bien entendre notre Seigneur, c'est ce silence, voyez. Dieu parle dans le silence. Et c'est probablement parce que l'homme moderne s'éloigne de Dieu qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de silence. L'homme moderne ne peut pas supporter le silence. Et au contraire, on s'aperçoit que quand on arrive dans une maison religieuse, ben une chose qui nous frappe, c'est ce silence. Parce que Dieu est dans le silence. Donc, ce silence est un moment, et donc le silence est la condition pour entendre la voix de Dieu. Il est dit dans le livre de la Sagesse, et ce passage a été repris dans l'introït du dimanche dans l'octave de Noël, « Alors qu'un profond silence enveloppait toute chose, et que la nuit était au milieu de son cours, votre parole toute puissante est venue du ciel. » Donc, la parole de Dieu, le Verbe de Dieu, c'est la deuxième personne de la Sainte Trinité, qui de fait donc, est venue sur la terre au milieu de la nuit. On pense à la nuit de Noël, c'est en plein milieu de la nuit que le Verbe est venu en ce monde. Mais ce qui était vrai, si vous voulez, à ce moment-là, si le bon Dieu a voulu naître dans une crèche, donc dans un endroit isolé aussi, donc au milieu de la nuit, c'est pour nous montrer que le bon Dieu veut nous parler dans le silence. Et ce silence n'est pas si facile. Il y a déjà le silence, non seulement le silence de la bouche, qui n'est pas forcément évident, après il y a le silence des yeux aussi. silence des oreilles, et puis le silence de surtout le silence après de la folle du logis, quoi. Et c'est ça qui est sans doute le plus difficile. Donc pour certaines personnes qui ne sont pas habituées à vivre dans le silence est un petit peu une épreuve. Parce que quand on est dans le silence, eh bien, il y a des tas de choses qui reviennent à la surface. Vous voyez. Donc des choses bonnes ou moins bonnes. Et donc il faut apprendre à gérer cela. Mais c'est, en tout cas, c'est une grâce à demander. Donc aujourd'hui, c'est peut-être de vous dire, mais alors, est-ce qu'ils ont bien compris tout ce que je leur ai dit? Ah mince, j'ai oublié de leur dire ça. Bon. Mais... Et puis après, donc à la fin de la retraite, ce sera l'après-retraite. C'est, ah oui, bon, maintenant on va retrouver le monde. Alors. Donc, je pense que le remède, voyez, pour éviter, disons, donc, que notre imagination nous joue des tours, donc soit de revenir dans le passé, ou soit de s'inquiéter de l'avenir, il faut apprendre à vivre dans le présent. Voyez. Et dites-vous ça bien pendant la retraite, c'est que Dieu est dans le présent. Pour Dieu, il n'y a ni passé ni futur. Pour nous qui sommes dans le temps, il y a du passé et du futur. Mais pour Dieu, il n'y a ni passé ni futur. Dieu est dans un présent, dans un éternel présent. Le ciel est un présent. Donc si je veux être uni à Dieu, eh bien je dois vivre dans le présent. Je n'ai pas la grâce pour demain, ni pour après-demain. Le passé est passé, donc je dois bien vivre l'instant présent. Alors c'est sûr que pendant la retraite, au début de la retraite, on vous aidera à purifier votre âme, donc il faudra revenir un peu sur le passé. Donc après dans la deuxième partie de la retraite, on vous aidera aussi à prendre des résolutions, il faudra aussi regarder l'avenir. Mais d'une façon quand même ordinaire, il faut apprendre, pour être équilibré dans la vie et dans le monde, il faut apprendre à bien vivre l'instant présent. Et se dire qu'une horloge, elle est faite pour donner l'heure, s'il est en avance, ça ne va pas, s'il est en retard, ça ne va pas. Eh bien, pour nous, être à l'heure, ça signifie vivre l'instant présent. Oui. Et vous pouvez constater que justement, nos vies sont parfois... on n'a pas toujours la fécondité qu'on devrait avoir donc dans nos vies, parce que le souci pèse sur notre âme, donc l'inquiétude de l'avenir, le retour sur le passé. Donc tout ça pèse sur nous. Alors que si on arrive à évacuer le passé et donc à ne plus s'inquiéter de l'avenir, à bien vivre l'instant présent, alors là on est pleinement à ce qu'on fait et donc on a une vie qui est beaucoup plus paisible déjà et ensuite plus efficace aussi. Donc c'est une. Bon, maintenant après, comme je dis aussi, c'est que si vous n'êtes pas habitué bien sûr à ce silence, eh bien il ne faudra pas vous étonner de ne pas y arriver tout de suite. Un TGV, on ne l'arrête pas comme ça d'une façon. Donc il faut un certain temps. On voit bien qu'il y a des retraitantes, par exemple. Bon, j'ai l'habitude maintenant un peu de prêcher les retraites. Il leur faut... Donc, certaines arrivent tout de suite. Bon, très bien. Elles ont de la chance. D'autres, il leur faut une journée, d'autres deux journées. C'est comme ça. Mais c'est pas... L'important, c'est en tout cas de manifester notre bonne volonté et donc d'avancer dans la bonne direction. C'est surtout ça l'important. Donc, notre Seigneur a été conduit par l'Esprit-Saint dans un désert. Il a été conduit pour prier. Et donc... Ici, vous voyez, pensez que la prière, et ça c'est vrai pour tout le monde, la prière peut être un plaisir, et j'espère qu'il y aura des moments où vous serez heureuse de prier, et il y a d'autres moments où c'est plus difficile. Vous voyez. Donc la prière, il y a un petit peu dans la vie spirituelle, un peu comme les quatre saisons qu'on rencontre dans la vie temporelle, on la rencontre aussi dans la vie spirituelle. Et une retraite, c'est un petit peu un abrégé de notre vie. Donc dans une retraite, c'est dans l'ordre des choses, si vous voulez, qu'il y ait des moments où vous sentiez bien à prier, j'espère que vous le sentirez, et des moments où ce sera aussi plus dur. Et je dirais que dans notre vie, on a précisément besoin des deux, vous voyez. On a besoin de ce plaisir parce que c'est un soutien pour nous. Donc, quand on a du goût pour une chose, c'est plus facile, bien sûr. Et donc, comme on n'est pas des anges, on a aussi besoin de ce soutien. Mais aussi, on a besoin de réaliser qu'on n'est vraiment rien. Par nous-mêmes, nous ne sommes rien. Et donc, quand on veut prier et qu'on n'arrive pas, eh bien, c'est très humiliant, mais c'est parce qu'on voudrait arriver et on n'arrive pas. Eh bien, le bon Dieu parle aussi à travers cela. Oui. Donc, les moments de consolation sont des moments qui nous sont, bien sûr, qu'on apprécie beaucoup et qui nous sont nécessaires parce qu'on a besoin de ce soutien pour avancer. Mais les moments de sécheresse sont aussi très nécessaires parce qu'on a tous en nous-mêmes, malheureusement, un amour déréglé de nous-mêmes. Et on a besoin qu'on nous remette à notre place. Et donc ces difficultés à prier doivent nous aider à être encore beaucoup plus reconnaissants lorsqu'on a de la facilité. Ça montre qu'en ce moment-là, le bon Dieu nous porte. Donc le bon Dieu, de temps en temps, nous montre ce qu'on vaut par nous-mêmes pour qu'on réalise tout ce que l'on lui doit d'une façon ordinaire. Donc ne soyez pas du tout surprise d'avoir des moments donc plus difficiles à prier, ou des moments qui seraient plus difficiles pour prier. C'est dans l'ordre des choses, mais ne vous découragez pas et pensez que, à ce moment-là, si vous êtes fidèle, eh bien, le bon Dieu récompensera votre fidélité. Il y a, dans le psaume 49, il est dit « Le sacrifice de louange m'honorera ». Donc, la louange est parfois un sacrifice et c'est cela qui honore le bon Dieu. Et notre Seigneur a prié donc au mont Tabor, lorsqu'il était là, transfiguré. Donc, c'était un bon moment pour lui, bien sûr. Mais il a aussi prié sur la croix. Et quand on voit notre Seigneur sur la croix... avec des torrents d'injures et de blasphèmes autour de lui, ses apôtres qui l'ont abandonné dans ses souffrances terribles, eh bien notre Seigneur continuait à prier. Et puis enfin, il est dit, et il fut tenté par le diable. Alors ça peut paraître étonnant, justement, qu'il y ait des tentations, même dans une retraite. On se dit, dans une retraite, moi je suis là pour le bon Dieu, je suis là pour le prier, j'ai quand même manifesté ma bonne volonté, et puis paf, je suis tenté maintenant, quoi. Eh bien, il faut penser que si le bon Dieu est tout content de vous voir ici, il y en a un qui n'est pas très content, quoi. Et c'est normal, mais le démon n'est pas très content. Et donc, c'est dans l'ordre des choses qu'il y aura des moments qui pourront être un peu plus difficiles. Mais ne vous inquiétez pas, il ne faut pas avoir peur de lui, dans la mesure où vous chercherez à prendre les bons moyens pour le chasser. Et spécialement, donc, un des moyens, c'est justement de venir parler au prêtre. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. Et puis alors dans les tentations, il y a plusieurs types de tentations qui peuvent arriver aussi. Parfois, il y a différentes causes aux difficultés qu'on peut avoir dans une retraite. Parfois, il y a simplement une cause physique. C'est-à-dire que dans la mesure où on n'a pas le rythme donc soutenu qu'on a dans le monde, c'est le moment où les nerfs lâchent, c'est le moment où on ressent davantage la fatigue. Mais c'est comme ça. Ça, c'est une cause physique, tout simplement. Après, il y a aussi donc une cause psychologique, comme je vous ai dit. Il y a certaines personnes, c'est la folle du logis qui se met en route quand elles sont toutes seules et que... Voilà. Donc là, après, il faut apprendre à gérer ces moments-là. Donc soit en allant courir ou en essayant de... Si on n'est pas bordé du tricot, en essayant de vous occuper différemment, donc pour essayer de garder quand même calme. Et puis, parfois, il peut y avoir aussi donc une cause spirituelle. Donc le bon Dieu aussi donc permet ces moments plus difficiles pour purifier notre âme. Et notre Seigneur veut en quelque sorte aussi tester, voyez, notre degré d'amour. Si je ne reste en prière près du bon Dieu que lorsque je ne trouve du goût, eh bien ça montre qu'en fait c'est le goût qui m'intéresse, c'est pas le bon Dieu. Et donc j'aime les consolations de Dieu plus que Dieu. Et Dieu veut tester en quelque sorte savoir si c'est à lui qu'on est attaché ou uniquement au goût qu'on ressent en sa présence. Donc il enlève le goût, et si quand il enlève le goût, eh bien on reste présent, c'est le signe qu'on l'aime vraiment. Voyez. Regardez par exemple dans l'Évangile, notre Seigneur avec la Cananéenne par exemple, eh bien notre Seigneur a attendu qu'elle insiste lourdement pour en arriver donc cet aveu d'une admiration qu'il avait en voyant cette ténacité. Donc notre Seigneur lui dit « Ô femme, ta foi est grande, qu'il soit fait selon ta parole ». Eh bien, si elle avait arrêté de prier au milieu, vous voyez, en disant n'importe comment, j'arrive à rien, c'est pas la peine, eh bien, elle n'aurait pas eu ce bel éloge de notre Seigneur. Vous regardez encore Sainte Marie Madeleine, donc après la résurrection, le tombeau est vide. Ben, qu'est-ce qu'on va faire devant un tombeau vide? Se disent les apôtres quand ils voient le tombeau est vide, ils rentrent à la maison. Ben, elle reste là, voyez. Et elle reste, et elle pleure, et elle réclame notre Seigneur, et notre Seigneur va lui apparaître. Voyez. Donc, je pense que cette insistance dans la prière est importante pour arriver à, non pas une tension nerveuse, il ne s'agit pas d'une crispation, mais il s'agit d'une persévérance dans l'effort et d'un bel acte d'espérance. Voilà. Alors sinon, maintenant je ne vais pas être trop long pour ne pas trop vous fatiguer en ce début de retraite. Donc cette retraite, on l'a baptisée « retraite de vie chrétienne ». Tout simplement parce que les instructions qui seront faites seront des instructions qui sont donc assez générales sur la vie, donc la vie d'un catholique. Donc il y a des instructions sur Dieu, sur le péché, sur notre Seigneur, sur la grâce, sur la prière, sur l'oraison, sur donc la messe, la Sainte Vierge. Et puis aussi donc quelques-unes qui ont plus trait au rôle de la femme, donc spécialement, il y en a quelques-unes que j'avais déjà fait ici il y a 3 ou 4 ans, je crois, et que je ferai cette année, sur le rôle spécialement de la femme catholique dans ses rapports avec Dieu, ensuite la jeune fille catholique à l'école de Notre-Dame, l'épouse et la mère, et puis le rôle de la mère dans la genèse d'une vocation. Donc, vous voyez que ce sont des thèmes qui sont plutôt des thèmes assez larges, dans le but que pour que tout le monde puisse s'y retrouver, et certainement qu'en tout cas, si vous faites une bonne retraite, vous verrez que à la fin d'une retraite, on voit ça, c'est toujours le cas, donc on est plus paisible à la fin d'une retraite et aussi plus généreux. Donc c'est un petit peu les signes d'une bonne retraite. Et donc, dernier conseil, faites bien sûr cette retraite en compagnie de la Sainte Vierge. C'est vrai que la Sainte Vierge adoucit toujours les mœurs, on peut dire, et en vivant près d'elle, c'est sûr qu'elle vous donnera des grâces particulières. Donc n'hésitez pas à dire le rosaire en entier, même toute la journée. Enfin, ça dépend après de ce que vous faites d'habitude, quoi. Mais donc profitez aussi des temps libres pour bien vivre en compagnie de la Sainte Vierge. Et certainement, la Sainte Vierge vous donnera beaucoup de grâces pour vous aider à vivre près d'elle. Donc, en tout cas, le mot d'ordre pour bien suivre cette retraite, je vous l'avais dit au début, enfin au cours de l'instruction, là, c'est de bien vivre l'instant présent. Je pense que c'est ce qu'il faut essayer de faire pendant la retraite et après la retraite pour avoir une vie qui soit toujours plus féconde et plus agréable à Dieu. Donc, bonne retraite à toutes et soyez bien assurés des prières. Voilà. Voilà, chères retraitantes, nous poursuivons cette retraite par une nouvelle instruction qui va porter donc cet après-midi sur le péché. Donc, on a voulu faire une instruction ce matin, d'abord sur le bon Dieu, parce que le but d'une retraite, c'est avant tout de regarder Dieu. Le but d'une retraite, c'est d'apprendre à contempler le bon Dieu et à vivre près de lui, mais aussi en même temps, et bien après, avoir porté notre regard sur Dieu spontanément, le regard aussi se porte sur nous-mêmes, à la fois pour remercier le bon Dieu des grâces qu'il nous donne, mais aussi en même temps pour déplorer le décalage qu'il peut y avoir encore aujourd'hui entre ce que nous sommes et ce que le bon Dieu voudrait que l'on soit. Et donc, il est important de réfléchir un petit peu à ce mystère du mal et ce mystère du péché. Donc, vous aurez une instruction sur le sacrement de pénitence demain, mais aujourd'hui, dès aujourd'hui, je pense qu'il est bon de réfléchir un petit peu à ce mystère du péché. Comment se fait-il que le bon Dieu qui nous a donné cette liberté pour faire le bien, comment se fait-il que nous en fassions si souvent, sans doute, un mauvais usage? Et que faut-il alors pour arriver à être plus fidèle à Dieu? Donc il me semble que le but de cette instruction, c'est donc de déplorer nos fautes passées, mieux cerner peut-être les mauvaises tendances qui sont en nous, et surtout regretter plus profondément devant Dieu, devant notre Seigneur qui est là présent, donc en nous, je l'espère, et au tabernacle, pour déplorer devant lui nos manquements. Donc parfois même les confessions qu'on fait, on les fait un petit peu d'une façon un peu rapide. Et donc là, la retraite est l'occasion pour nous de susciter en nous un plus profond regret, parce que on voit bien que ce qui plaît à Dieu face à notre état de pécheur, c'est cette reconnaissance de nos fautes. Voyez. Pour les mères de famille qui sont ici, je pense que ce qu'elles attendent surtout de leurs enfants lorsque l'enfant a mal agi, c'est que l'enfant le regrette. Voyez. Et quand vous avez votre enfant qui a mal agi, bien sûr que ça vous fait de la peine de voir que votre enfant a mal agi. Mais si vous voyez après que c'est votre enfant, il ne sait plus où se mettre tellement il est mal parce qu'il reconnaît qu'il a mal agi et vraiment il le déplore entièrement, bien sûr que vous allez tout de suite l'accueillir, voyez, avec beaucoup d'amour et beaucoup de condescendance. Voyez. Et bien pensez que le bon Dieu, il agit comme ça avec nous. On a beaucoup de paraboles dans l'Évangile qui le montrent. Voyez. Et donc, parfois, on a tendance à... On regrette le péché, mais plus parce qu'on se sent mal nous-mêmes que par rapport à Dieu. Ou alors, on le regrette aussi parce que notre orgueil en prend un coup. Quoi. On se dit, moi, je me suis encore fait avoir. Mais donc, c'est par rapport à nous. Et ce qui serait important, ce serait, spécialement dans une retraite, puisque le but est de porter un regard sur Dieu, c'est de regarder le bon Dieu et de regarder la peine que nous avons pu faire au bon Dieu par nos péchés. Et de lui dire vraiment, parce qu'il s'agit d'un cœur à cœur avec Dieu, de dire vraiment à notre Seigneur qu'on regrette profondément ce qui a pu lui déplaire et ensuite après qu'on lui demande la grâce d'être plus fidèle. Alors pour mieux comprendre ce qu'est le péché, je voudrais m'arrêter un petit peu au début sur vous faire réfléchir sur ce qu'est la liberté. Parce que le péché est un mauvais usage de la liberté, donc il faut bien saisir ce qu'est la liberté pour mieux comprendre ce que c'est que le péché. Parce que pour aussi éviter le péché, il me semble qu'il faut toujours bien comprendre que ce que le bon Dieu réclame de nous est bon et conforme à notre nature. Si on arrive à comprendre cela, eh bien, ce sera beaucoup plus facile de pratiquer la vertu. Si on imagine que la vertu est d'une certaine manière dans le sens contraire de notre nature et qu'elle est comme quasi surhumaine, en ce moment-là, ben, on aura tendance peut-être à se dire « oui, mais ce n'est pas pour moi ». Il faut comprendre que dans le plan de Dieu, eh bien, nous sommes faits pour vivre de façon vertueuse. Il y a certes en nous, on va en parler, le vieil homme qui demeure en nous, qui lui nous attire vers le bas, mais le fond de notre nature, de nature dans le sens où notre nature a été créée par Dieu, notre nature est faite pour la vertu. Le bon Dieu nous a créés pour le bien, pour que nous accomplissions le bien. Et la preuve, c'est que justement, quand on accomplit le mal, eh bien, on est mal, enfin, je l'espère. Après, bien sûr qu'il peut arriver qu'il y ait des consciences qui sont endormies ou qui sont détournées du vrai, donc qui sont fausses. Et donc, une fausse conscience fait qu'on peut se dormir tranquille avec des péchés graves sur la conscience. Mais on ne s'en rend pas compte, en fait, parce que notre conscience est faussée. Mais celui qui a une conscience droite, eh bien, lorsqu'il agit mal, eh bien, tout de suite, il se sent mal. Et heureusement, on a au moins ça comme radar, ce qui nous permet d'avoir le remords ensuite et après de revenir dans le droit chemin. Donc essayons de comprendre donc comment est-ce que nous sommes faits pour vivre donc, dans le sens de la vertu. Donc tout d'abord, reconnaissons que chaque créature tend vers un but. Vous voyez, le bon Dieu a créé donc, des êtres qui sont inanimés, des êtres ensuite qui sont vivants, des végétaux, des animaux, des hommes, des anges, et chacune de ces créatures a été créée dans un but. Ainsi, le soleil a été créé pour produire lumière et chaleur. Les arbres ont été créés pour produire du fruit. Le pommier pour produire des pommes, le poirier pour produire des poires. Bon. L'abeille pour produire du miel. Donc chaque créature tend à une fin particulière. Et c'est là son épanouissement. Une créature s'épanouit en respectant sa nature. Donc le pommier s'épanouit en produisant des pommes, il ne produit pas de poires, il n'est pas fait pour cela. Donc il est limité par sa nature à produire des pommes. Le poisson, il est fait pour vivre dans l'eau, si vous le sortez de l'eau, bien sûr qu'il sera mal, parce qu'il n'est pas fait pour cela. L'oiseau, il est fait pour vivre, bien sûr qu'il y a des oiseaux aquatiques, mais sinon les oiseaux sont faits pour vivre dans l'air, donc c'est aussi là qu'ils arrivent à trouver leur épanouissement. Et donc ce qui est vrai des animaux est vrai aussi de l'homme. Donc l'homme doit respecter sa nature. Et pour respecter sa nature, bien sûr qu'il faut la connaître. Vous connaissez l'expression on dit « qui veut faire l'ange fait la bête ». Donc l'homme, lui, on est un petit peu bâtard, c'est vrai, par notre nature. On a quelque chose de l'ange et quelque chose de l'animal. Mais donc l'homme est un esprit et un esprit dans un corps. Donc je ne dois pas me prendre pour un ange, parce que j'ai un corps aussi, dont je dois tenir compte. Et je ne dois pas non plus me prendre pour un simple animal, parce que j'ai quand même une intelligence et une volonté libre qui me permettent d'avancer vers le bien. Et donc, ne pas me prendre pour un ange, donc parce que je ne suis pas un pur esprit, et puis aussi, ne pas me prendre non plus pour un simple animal, parce que j'ai une intelligence et une volonté libre. Et ce radar, donc, qui va me permettre pour moi d'avancer, vous voyez, c'est toujours donc, ma raison, donc mon intelligence, et ma volonté. C'est ça qui me permet de me mouvoir dans le bien, de connaître le vrai et de me mouvoir ensuite dans le bien. L'animal, vous voyez, lui n'a pas à réfléchir. Le chien va se dire, est-ce qu'aujourd'hui je vais manger la viande qu'on me propose? Non. Il voit la viande, il a faim, bon, il la mange. Vous voyez. Est-ce que nous, bien, on peut réfléchir? Non, aujourd'hui c'est vendredi, je ne mange pas de viande. Donc on fait appel à notre raison, on fait appel à notre réflexion. Et précisément, l'homme est fait donc pour vivre de façon raisonnable. Et donc, ça veut dire que c'est mon intelligence et éclairé par la foi, dans la mesure où je suis, j'ai la grâce d'être catholique, qui va me donner la grille de lecture pour savoir ce qui est conforme ou pas à ma nature et ce qui est conforme ou pas à ce que le bon Dieu attend de moi. Et non seulement je suis un homme, mais alors une deuxième clé, si vous voulez, très importante pour pouvoir agir en conformité avec ce que je suis, non seulement je suis un homme, donc avec une nature humaine, mais je suis un homme particulier, je dirais. Particulier dans la mesure où j'ai une nature blessée. Ma nature est blessée depuis le péché originel. Donc je suis un homme, mais un homme détraqué. Même après le péché originel, il y a en moi, si vous voulez, des tendances qui ne sont pas bonnes. Et ça, c'est lié au péché de nos premiers parents. Donc, lorsque nos parents ont quitté le paradis terrestre, ils ont été rejetés du paradis. Et il y a des tendances mauvaises qui sont demeurées en eux. Et alors, c'est vrai que le baptême va effacer la tâche du péché originel, donc va nous donner la grâce de Dieu, mais malgré cela, on reste détraqué. Mon intelligence est faite, je l'ai dit, pour le vrai. Mais malgré tout, en soi, quand on réfléchit, par exemple, on se dit, bah oui, le fait d'avoir une nature spirituelle, c'est quand même quelque chose de magnifique, quoi. Donc, avoir une nature spirituelle, donc on a en nous quelque chose de l'ange. Après, on a aussi, parce qu'on a un corps, qu'on doit aussi respecter, on a quelque chose de l'animal. Mais c'est une évidence pour quelqu'un qui réfléchit un petit peu, que la partie la plus noble, c'est la partie qui est commune à l'ange, vous voyez. Donc, on se dit... Eh bien, certainement que ce qu'il y a de plus important pour un homme, c'est de faire en sorte que la partie inférieure, la partie animale, soit soumise à la partie supérieure. Il est avant tout un esprit. Et malheureusement, on peut constater que depuis le péché originel, en raison justement du fait que nous sommes détraqués, on a tendance à faire en sorte que nos passions, qui sont aussi communes à l'animal, l'homme a des passions comme les animaux ont des passions, nos passions ont tendance à prendre souvent le dessus, et à vouloir renverser en fait l'ordre voulu par Dieu. Et si bien qu'il y a beaucoup de gens qui vont utiliser leur intelligence et leur volonté, non pas pour s'élever spirituellement, mais au contraire pour assouvir leurs passions les plus basses et les plus déréglées. Et ça, je ne fais pas ici... C'est vrai que je fais un peu appel à la foi, dans le sens où je dis que nous sommes... détraqué, et donc ça c'est la foi qui nous l'enseigne, mais on peut dire aussi quand même que l'expérience nous le confirme. Vous voyez. C'était un petit peu ce que disait Pascal. Pascal disait, en réfléchissant, l'écrivain Pascal, il disait « Je constate que les pommiers sont faits pour produire des pommes, et de fait ils produisent des pommes. Je constate que le soleil est fait pour produire lumière et chaleur, il produit lumière et chaleur. Je constate que l'homme, lui, eh bien, c'est un esprit dans un corps, mais il a quand même une nature spirituelle. Et je constate qu'il y a quand même très peu d'hommes qui vivent vraiment profondément spirituellement. Ouais. Alors, il me dit, et alors lui dit, puisque c'est le cas, eh bien certainement que Dieu, qui est le maître de l'univers, n'a pas dû créer l'homme dans cet état-là. Donc il arrivait par ce raisonnement-là à montrer qu'il y a eu un péché originel. Mais le péché originel restera une donnée de foi. Mais pour nous qui avons la foi, nous savons très bien que de fait, Dieu n'a pas créé l'homme dans l'état dans lequel il est aujourd'hui. Et si donc nous avons tant de mal à vivre toujours spirituellement, comme nous devrions le faire, c'est en raison de ce péché originel qui a laissé des marques en nous. Alors nous avons notre intelligence qui va être blessée par la blessure d'ignorance. Alors c'est vrai que grâce à un bon enseignement de la vérité, notre intelligence pourra être éclairée. Mais malgré cela, on sent bien que nous aurons du mal à vivre eh bien, selon la hauteur de nos convictions, vous voyez. Et pourquoi cela? Parce que si notre intelligence est déjà détraquée et fait qu'on vit en partie dans l'ignorance de certaines vérités, nous avons notre volonté qui est plus détraquée encore. Et pourquoi cela? Eh bien, parce que le péché originel a été un péché qui a touché avant tout la volonté de nos premiers parents, vous voyez. La vertu est dans la volonté, et le péché dans la volonté. Oui. C'est si vrai que si vraiment il y a une chose qu'on ne veut pas, s'il n'y a pas de volonté du tout, par exemple quand on est endormi, ben, en ce moment-là on ne veut pas forcément une chose, ben, s'il y a quelque chose qui se produit alors qu'on est endormi, ben, il n'y a pas de faute. Oui. La faute, elle est dans le domaine de la volonté. Donc la vertu dans la volonté et le vice dans la volonté. Mais puisque justement, librement et volontairement, nos parents se sont séparés de Dieu par le péché originel au départ, eh bien, en conséquence, eh bien, la volonté de l'homme, aujourd'hui, reste détraquée. Et saint Thomas d'Aquin explique bien que nous sommes plus détraqués dans notre volonté que dans notre intelligence. Ce qui veut dire concrètement qu'il est plus difficile de faire le bien que de concevoir le bien. Concevoir le bien à faire, ça va encore. On arrive, bon, il faut avoir une formation, mais avec un minimum d'intelligence, un minimum de formation, on arrive à connaître ce que l'on doit faire. Mais le faire, alors là, c'est plus difficile. Au point qu'un saint Paul pouvait dire « Je ne fais pas le bien que je voudrais faire et je fais le mal que je ne voudrais pas faire. » Parce qu'il y a cette volonté qui est faible, vous voyez. Au lieu d'être toujours attiré par le bien, notre volonté normalement faite pour le bien, elle se laisse souvent attirer par le mal. Elle est faible. Et puis ensuite, après, nous avons aussi la partie inférieure de notre être, donc nos appétits, que ce soit l'appétit qu'on appelle irascible, c'est-à-dire par rapport au bien ardu, par rapport aux obstacles qu'on rencontre dans la vie, on a tendance à baisser les bras. Donc c'est la blessure de faiblesse. Donc normalement, si vous voulez, il y a en nous un appétit d'agressivité pour surmonter les obstacles. Et donc il est en soi ni bon ni mauvais. Parce que si l'obstacle qu'on veut franchir est bon, eh bien cet appétit est bon. Heureusement qu'il y a en nous ce ressort qui nous permet de normalement d'aller de l'avant et de vaincre les obstacles. Donc la vie est faite d'obstacles et les obstacles sont faits pour être franchis. Et un obstacle que je franchis m'affermit. Et un obstacle devant lequel je bute m'affaiblit. Et dans nos journées, eh bien, il y a des tentations qu'on surmonte. Une tentation que j'ai surmontée m'affermit. Une tentation devant laquelle je succombe m'affaiblit. Et donc il y a des plus et des moins dans notre vie. Et tout le travail de l'éducation, c'est justement de former les volontés de nos jeunes pour faire en sorte qu'ils arrivent à affronter sereinement les obstacles de la vie. Et ça, c'est lié à encore aussi à notre nature. Donc dans le plan de Dieu, il y a des obstacles à franchir. Et ces obstacles, aujourd'hui, on a plus de mal à les franchir en raison de cette blessure qu'on appelle de faiblesse qui nous rend difficile donc le passage de certains obstacles. Et puis enfin, dernière blessure, c'est la blessure de concupiscence. C'est cette attirance déréglée pour les plaisirs des sens. Donc le fait d'aimer les bonnes choses en soi n'est pas mauvais. Le bon Dieu a créé nos appétits. Mais nous avons tendance à rechercher ces appétits, là aussi, de façon déréglée. C'est ce qu'on appelle la blessure de concupiscence. Et chez ceux qui se laissent aller spécialement à tous ces vices qui sont en rapport avec la concupiscence, ça les rend, dit saint Thomas, imprudents. Le manque de prudence est souvent lié à cette blessure de concupiscence. Et on voit bien d'ailleurs, c'est terrible d'ailleurs quand on connaît l'histoire de certains ménages, quand un homme est sous une passion déréglée, un homme donc, de façon générique, donc un homme ou une femme, eh bien on est capable des pires bêtises, quoi. Donc il y a le radar qui est normalement notre intelligence, qui devrait nous aider à vivre de façon prudente, et disparaît complètement lorsque l'homme est sous le feu d'une passion déréglée. Donc il faut que j'ai conscience, vous voyez, que depuis le péché originel, eh bien, je suis un esprit incarné, donc j'ai un esprit dans un corps, mais aujourd'hui, au lieu que mon corps soit totalement soumis à mon esprit, mon corps, aujourd'hui, eh bien, a tendance, mon corps et mes passions, ont tendance à prendre trop de place. Mais maintenant, et ça c'est quand même aussi un autre aspect très important aussi à considérer, nous avons aussi, depuis le baptême, retrouvé la grâce de Dieu. Et si nous sommes en état de grâce, nous avons aujourd'hui la grâce en nous. Et donc, avec la grâce, le bon Dieu nous donne des secours surnaturels, donc des vertus surnaturelles, vertus théologales, de foi, d'espérance et de charité, vertus morales, pour contrecarrer les faiblesses qui demeurent en nous et que nous venons de considérer. Donc, pour lutter contre l'ignorance qui est liée au péché originel, il y a la vertu de prudence qui va donc éclairer mon intelligence et qui va corriger ce vice d'ignorance. Pour corriger ensuite la blessure de faiblesse, qui touche notre volonté, qu'on appelle en général blessure de malice, cette attirance vers le mal, il va y avoir la vertu de justice qui va nous permettre de remplir eh bien, nos devoirs, et donc qui va nous permettre d'accomplir le bien que nous avons à faire. Ensuite, pour arriver à corriger la blessure de faiblesse, il va y avoir la vertu de force qui va être là, pour qui nous est donnée donc par le bon Dieu, pour corriger cette blessure. Et puis enfin, il va y avoir la vertu de tempérance pour corriger le vice, la faiblesse que nous avons, que je nommais la concupiscence. Donc par rapport à ce qui s'oppose à la concupiscence, ça va être la vertu de tempérance. Maintenant, ces vertus, vous voyez, pour qu'elles puissent vraiment agir en nous, elles nous sont données donc par la grâce. Donc tout homme qui est en état de grâce possède en lui ces vertus. Mais pour que ces vertus puissent s'exercer, il faut qu'il y ait la vertu acquise correspondante. À savoir que, je prends un exemple donc concret, quelqu'un qui a malheureusement le vice de l'alcoolisme. Donc il a tendance à trop boire et il se confesse. Au sortir du confessionnal, il retrouve la grâce de Dieu. En retrouvant la grâce de Dieu, il retrouve les vertus. Et donc il retrouve entre autres la vertu donc surnaturelle de tempérance. Mais comme il n'a pas la vertu acquise de tempérance, en sortant du confessionnal, en rentrant devant chez lui, il passe devant le café, puis paf, il se fait avoir, il rentre de nouveau, hop, et puis c'est, et il replonge à nouveau. On pourrait dire, mais comment ça se fait? Puisque vous me dites que quand on reçoit la grâce, on reçoit les vertus, que cet homme qui a reçu la vertu de tempérance, comment ça se fait qu'il replonge l'instant d'après? Eh bien, le rôle d'une vertu surnaturelle n'est pas de détruire un vice opposé à cette vertu. Le rôle d'une vertu surnaturelle, c'est de permettre aux vertus naturelles de produire des effets surnaturels. Mais ce n'est pas de détruire le vice opposé. Et c'est la raison pour laquelle, dans l'éducation, il est très important d'aider les enfants à acquérir les vertus pour précisément permettre aux vertus infuses de produire leurs effets, de produire leurs fruits. Donc, respecter ma nature, ça veut dire qu'il faut toujours que j'ai en mémoire déjà ce qu'est un homme, un esprit incarné, un esprit dans un corps, et ce qu'est un homme aussi aujourd'hui, c'est-à-dire un homme, un esprit incarné, mais qui est en partie détraqué à cause des séquelles du péché originel, mais qui est aussi ennobli avec un trésor magnifique qu'il faut essayer d'exploiter au mieux. Vous voyez. Et tout le travail de l'éducation et tout le travail ensuite, après même durant notre vie, de tout ce qui touche la morale donc de catholique va consister à essayer de développer le meilleur de nous-mêmes et d'endiguer autant que possible, et même de détruire autant que possible, le vieil homme qui demeure en nous. Mais il ne faut pas que nous soyons surpris, voyez, de ressentir en nous encore cette attirance vers certains désordres. Voyez. Et ça, c'est vrai, c'est lié à notre pauvre nature. Alors, suivant nos péchés passés, ensuite, après, ou suivant déjà le tempérament, parce que nos tempéraments sont différents, hein, on pourra avoir tendance à aggraver, en plus, accentuer davantage telle blessure ou telle autre donc, qui est présente en nous. Mais ensuite aussi, grâce au travail de la grâce, et puis grâce donc à nos efforts, grâce aussi aux sacrements que nous recevons, eh bien, nous pouvons espérer petit à petit, au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, on peut arriver à cicatriser donc toujours davantage donc ce qui peut y avoir encore de détraqué en nous quoi. Donc il me semble que c'est important d'avoir bien en mémoire ce que nous sommes pour que notre agir donc puisse être en correspondance avec cela. Et en même temps, je pense que cette vision, si vous voulez, juste de ce qu'est l'homme, doit à la fois donc nous aider à ne pas nous étonner de nos faiblesses, et en même temps doit aussi nous soutenir en pensant donc à tous ces remèdes et tous ces moyens que le bon Dieu a mis à notre disposition pour développer le meilleur de nous-mêmes. Donc je dois, maintenant que je connais mieux ce que je suis, respecter ma nature. Et donc respecter ma nature, ça va signifier reconnaître les limites de ma nature et me soumettre donc aux lois de la nature. Parce que, vous voyez, on dit qu'on ne viole jamais les lois de Dieu donc impunément. Et ça, c'est vrai même déjà des lois physiques. Par exemple, celui qui dirait, eh bien, moi, je n'ai rien à faire de la loi de la pesanteur, ça a été inventé par des scientifiques, moi, je ne suis pas scientifique, puis je m'en fous. S'il se jette par-dessus la fenêtre, eh bien, il va se casser la figure. On est obligé de respecter les lois de la nature. Si on ne les respecte pas, eh bien, nécessairement, il y aura des conséquences, voyez. Ou celui qui veut fabriquer un avion, mais il doit connaître les lois de la pesanteur et respecter ces lois. Sinon, ça ne marchera pas, voyez. Le paysan qui veut avoir une bonne récolte, eh bien, il doit semer ses graines au temps voulu, à la bonne saison. Sinon, bien sûr, que les plantes ne pousseront pas. Voyez. Donc, dans le domaine physique, on constate que si on ne respecte pas les lois que le bon Dieu a faites, ça ne marche pas, voyez. Mais ce qui est vrai des lois physiques est vrai aussi des lois morales. Donc, si j'oublie ce que je suis et que je ne respecte pas ma nature, que je ne tiens pas compte de mes faiblesses ou que je n'exploite pas suffisamment mes richesses, eh bien, nécessairement, ma vie ne produira pas tous les fruits que le bon Dieu attend de moi. Pour pouvoir faire en sorte d'avoir une vie féconde, il faut sans cesse se rappeler ce que nous sommes. Et maintenant, pensons que le bon Dieu donc, nous a donné donc, la liberté, il nous a créé donc, libres, et en même temps, pour faciliter les choses, il nous a donné sa loi. En soi, Dieu n'était pas obligé de nous donner les 10 commandements, parce qu'on dit que chez une personne qui n'est pas complètement détraquée, normalement, eh bien, les commandements de Dieu sont inscrits dans notre nature. Donc le fait qu'on doive aimer Dieu par-dessus tout, le fait qu'on ne doive pas voler, le fait qu'on ne doive pas tuer, normalement ça c'est inscrit dans notre nature. Mais le bon Dieu, sachant quand même que notre nature est blessée, et sachant que dans le concret, c'est vrai que nous avons tendance à oublier donc, certaines vérités élémentaires, il a tenu à révéler même ses commandements donc à Moïse donc dans l'Ancien Testament. Et ensuite notre Seigneur est revenu sur la terre pour nous rappeler ses commandements et pour même les préciser au cours de son pèlerinage sur la terre. Mais pensons là aussi que les commandements de Dieu sont en rapport avec notre nature. Voyez. Par exemple, le bon Dieu nous commande de l'aimer. Mais s'il nous commande de l'aimer, c'est parce que Dieu est infiniment aimable. Voyez. Et il est infiniment digne d'être aimé. Quand on réfléchit un petit peu, voyez, Dieu possède toutes les qualités, il possède toutes les perfections. Ce qui nous attire dans une personne, ce sont les qualités, normalement. Et donc, eh bien, le fait que le bon Dieu possède, lui, toutes les qualités, toutes les perfections à l'infini, bien sûr que cela doit nous attirer. Mais aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'on ne le voit pas. Le jour où on le verra, c'est une évidence que de tout notre être, on s'en ira vers lui, voyez. On sera vraiment complètement attiré par lui, parce qu'on est fait pour lui. Même. Plus que le poisson qui est fait pour l'eau. On est vraiment fait pour Dieu. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ce Dieu pour lequel on est fait, on ne le voit pas. Alors, comme on ne le voit pas, on peut se laisser fasciner par des choses créées, au point d'oublier ensuite le but de la vie. Quoi. Mais quand on réfléchit un petit peu à ce qu'est Dieu, déjà en lui-même, après, quand on connaît par la révélation tout ce qu'il a fait pour nous, le fait qu'il soit venu sur la terre, le fait qu'il ait accepté de souffrir, le fait que notre Seigneur soit mort pour nous sur la croix, tout cela, bien sûr, nous révèle la profondeur de l'amour de Dieu. Donc, le bon Dieu nous commande de l'aimer, c'est un commandement. Mais vous voyez bien que ce commandement de Dieu est en conformité avec notre nature. Nous sommes faits pour lui. Voyez. Donc il ne demande pas quelque chose en soi, ni de surhumain, ni de contraire à notre nature. On est vraiment fait pour lui. Donc on doit l'aimer, bien sûr, parce qu'il est infiniment aimable. De même, lorsque le bon Dieu nous demande, par exemple, d'honorer nos parents, il ne demande pas quelque chose non plus de contraire à notre nature, dans la mesure où si nous sommes ici, c'est grâce à eux. Alors bien sûr que nous avons des qualités et des défauts, comme nos parents ont aussi des qualités et des défauts, mais le fait de les honorer pour nous avoir mis à l'existence est tout à fait dans l'ordre des choses. De même, si je ne dois pas mentir, eh bien, parce que le bon Dieu nous a interdit aussi de mentir, donc tu ne mentiras pas, c'est un des commandements de Dieu. Ce n'est pas non plus quelque chose d'incongru ou d'inconvenant ou de. C'est tout à fait dans l'ordre aussi de notre nature. On est fait, normalement, vous voyez, pour faciliter les contacts humains, normalement, ce qui facilite les rapports entre les hommes, c'est justement cette ouverture et cette franchise. Parce qu'en imaginant que toutes les personnes qui nous entourent nous mentent. Ou même mentent régulièrement, pas forcément tout le temps, mais régulièrement. En ce moment-là, il n'y a plus de confiance. Voyez. Ce qui fonde la confiance dans les êtres entre nous, eh bien, c'est justement cette franchise. Donc le bon Dieu nous interdit le mensonge, mais ce n'est pas pour mettre sur nous un joug intolérable, C'est tout simplement parce que, en imaginant que tout le monde dise toujours la vérité, ça facilite beaucoup les rapports des sciences humaines. Voyez. Donc, ma liberté m'a été donnée pour que j'observe les commandements de Dieu. Et ces commandements sont tout à fait, en soi, raisonnables. Voyez. Et ce qui est vrai également des commandements est vrai aussi des vertus. Donc, le bon Dieu veut qu'on agisse donc d'une façon vertueuse. Mais là aussi, les vertus sont en rapport avec notre nature. Par exemple, l'humilité, c'est une vertu qu'on a souvent du mal à comprendre. Mais l'humilité, en soi, n'est pas contraire à notre nature. Oui. Imaginez, par exemple, dans une famille, ou dans une école, ou dans un séminaire, qu'on soit tous parfaitement humbles. Oui. Bah, ça facilite beaucoup les rapports humains, hein, vous ne trouvez pas? Il n'y a plus d'amour propre du tout. L'amour propre a complètement disparu. Bah, la vie est tout de suite beaucoup plus facile. Quoi. Donc on voit bien que ce que le bon Dieu nous réclame n'est pas en soi surhumain. C'est vrai qu'en nous tous, hélas, nous avons cet amour déréglé de nous-mêmes, donc qui nous pourrit la vie, et qui peut ensuite après avoir aussi des incidences sur les autres, mais en soi, ce que le bon Dieu demande de nous est tout à fait raisonnable. Non seulement ça facilite la vie, donc cette humilité, mais en soi, l'humilité, c'est la vérité. Vous voyez. C'est la vérité, par exemple, que je dépends de Dieu constamment. C'est la vérité que je ne suis rien par moi-même. Donc le fait de le reconnaître, eh bien, c'est l'humilité. Oui. Et ensuite, après, l'humilité vraie ne consiste pas à méconnaître mes qualités. La Sainte Vierge, dans son Magnificat, chante bien les louanges de Dieu qui a fait en elle de grandes choses. Donc elle reconnaît les grandes choses qui sont en elle. Ne pas le reconnaître, ce serait un mensonge, ou ce serait la fausse humilité. Donc elle reconnaît les grandes choses qui sont en elle. Par contre, elle n'attribue pas à elle-même ces grandes choses. Le bon Dieu a fait en moi de grandes choses. Le bien qui est en moi vient de Dieu. Mais le reconnaître est donc dans la ligne de l'humilité. Et l'orgueil, au contraire, est un mensonge. Un orgueilleux, c'est quelqu'un qui se prend pour ce qu'il n'est pas, en réalité. Voyez. De même, la charité n'est pas contraire à notre nature. Voyez. Je suis fait pour cela. Je suis fait pour devenir charité. Alors c'est sûr qu'il y a encore un fond d'égoïsme en moi. Ça, c'est ma nature viciée. Mais en soi, je suis fait pour devenir charité. Voyez. Et c'est si vrai que quand vous voyez le vieux garçon égoïste qui replie un petit peu sur lui-même, on voit bien que ça ne peut pas être ça l'idéal de l'homme sur la terre. Quoi. On n'est pas fait pour ça. Mais on est fait pour devenir charité. Donc la charité n'est pas contraire à ma nature. Voyez. Aimer, c'est se donner, et je suis fait pour me donner. Donc pour qu'un être s'épanouisse, il doit respecter sa nature. Donc cela est vrai des minéraux, cela est vrai des végétaux, cela est vrai des animaux, cela est vrai des hommes, cela est vrai des anges. Et donc ça signifie concrètement pour moi, donc accepter d'être un homme et non pas un ange ni un animal, accepter aussi d'avoir une nature blessée, ensuite remercier le bon Dieu et savoir reconnaître les trésors qu'il a mis à notre disposition, qui sont accessibles à notre foi, donc trésors de la grâce. Et puis ensuite, respecter donc la loi morale en conséquence, donc qui va me permettre de développer le meilleur de moi-même. Et puis ensuite, personnellement, donc m'accepter comme je suis, avec mes qualités, avec mes limites, et même avec mes défauts, sans me comparer aux autres. Un secret d'ailleurs du bonheur aussi sur la terre, c'est toujours de ne pas se comparer aux autres. Il faut s'accepter tel que l'on est. Le bon Dieu nous aime tel que nous sommes. Et puis pour vous alors, donc chère retraitante, c'est aussi accepter d'être une femme et non un homme. Et ça, c'est aussi important parce que il faut que vous soyez vraiment donc à votre place, tel que le bon Dieu donc le veut pour vous. Et l'accepter pour ça, pour accepter donc d'être ce que nous sommes, il faut considérer bien sûr la noblesse de sa mission, la noblesse de sa vocation. Et à ce sujet, donc, je vous rappellerai un petit peu quelle est la mission de la femme, qui est réduite, enfin qui est décrite en quelques mots par Henri Charlier. En 1964, il disait ceci. Ô femme chrétienne, votre mission est grande. Vos maris, vos frères s'imaginent peut-être que tout irait mieux et même bien si on pouvait changer la forme du gouvernement ou celle de l'État. Transformer la société dans un sens ou dans l'autre. Vous-même, vous le croyez peut-être à force de l'entendre ou de voir les hommes en discuter entre eux. Or, l'avenir est entre vos mains. non en celle des technocrates, ministres, directeurs, commissaires, conducteurs, ingénieurs, experts et référendaires. Car c'est vous d'abord qui formez les hommes, référendaires, experts, ingénieurs, commissaires, directeurs. Tous ont été des enfants, et de leur éducation, sauf grâce extraordinaire, dépendra leur comportement dans les charges qu'ils auront à remplir et l'avenir de la société entière. L'homme est libre en ce sens qu'il est responsable de ses pensées et de ses actes devant Dieu, de ses actes devant les hommes. L'homme n'est vraiment libre que s'il est toujours prêt à agir conformément à ce qu'il sait être vrai, et non libre de mentir pour arriver à ses fins. L'apprentissage de la liberté vraie se fait dans le jeune âge, par le moyen de l'éducation, et c'est en quoi, ô femmes chrétiennes, votre mission est grande. Tous les hommes dépendent de vous au moins jusqu'à l'âge de 8 ans, et une éducation manquée à cet âge l'est pour toute la vie. Une bonne éducation reçue à cet âge laisse une trace ineffaçable. Ô femmes chrétiennes, on ne réformera pas la société sans vous. On ne la réformera pas par des lois. Toute réforme qui n'est pas en même temps réforme morale est vaine. La première des réformes morales est de la faire dans les rapports des sexes entre eux, c'est-à-dire que les femmes soient femmes à 100% et les hommes des hommes à 100%. Car c'est dans ces rapports que repose l'avenir moral d'une race et d'une nation. Ô femmes chrétiennes, vous êtes le sel de la terre, vous êtes le cœur de la famille, et la famille est par nature et par la grâce la société fondamentale. Vous avez, en leur donnant le jour, à compléter le nombre des élus, par l'exemple de votre foi, à faire germer chez les prédestinés et à faire grandir la semence de grâce reçue au baptême. Oui, votre mission est grande. Vous la tenez de Dieu à l'exemple de Marie qui a donné au monde celui qui devait être le premier-né d'entre les morts. Fuyez Ève et comme Marie, médiatrice de toute grâce, communiquez celle que vous avez reçue à ces enfants dont vous avez la charge. Ils conserveront toujours dans leur cœur, à l'âge d'homme, ce point par où on mouille à la grâce que vous leur aurez transmis. Donc vous voyez, la mission de la femme, c'est spécialement de former donc les hommes. Puisque le rôle de la femme, c'est d'enfanter, la femme est appelée à être mère, et ensuite à spécialement donc communiquer aux enfants donc le meilleur d'elle-même par l'éducation. Donc voilà ce qu'est la liberté. Donc ça consiste à faire un bon usage donc de nos facultés pour les orienter vers le bien. Et chaque fois que nous nous détournons de notre devoir, eh bien, pour faire le bien, et au lieu de faire le bien, nous faisons le mal, nous péchons. Donc le péché, c'est un mauvais usage de la liberté. Et il me semble qu'au cours de cette retraite, il faut spécialement demander à Dieu donc la grâce de vous éclairer intérieurement pour vous voir comme il vous voit vous-même, voyez. Ce serait bien si on pouvait arriver à cela. Arriver à porter sur nous un regard objectif et se voir comme le bon Dieu nous voit. Lorsqu'on mourra, voyez, et qu'on paraîtra devant le bon Dieu, à cet instant, eh bien, on se verra parfaitement tel que nous sommes, voyez. Au moment de la mort, on est jugé par Dieu, on apparaît devant lui. Et toute notre vie défile en ce moment-là, et on se retrouve, on voit exactement ce que nous sommes. Tout ce qu'il y a de bien et tout ce qu'il y a de mal en nous. Voyez. Eh bien, je pense qu'une grâce à demander, c'est au cours d'une retraite, c'est d'essayer de se voir tel que le bon Dieu nous voit. De telle sorte que si on mourait aujourd'hui, eh bien, comment est-ce que le bon Dieu aujourd'hui me verrait, quoi. Qu'est-ce qu'il dirait de moi? Quel serait le jugement que notre Seigneur porterait sur moi si, à l'instant même, je paraissais devant lui? Afin de pouvoir regretter aujourd'hui, puisque nous sommes en vie, nous avons cette grâce d'être vivants, afin de regretter tout ce qui dans notre vie a pu lui déplaire, et afin de lui promettre ensuite de faire les efforts voulus pour mettre ensuite avancer dans la bonne direction. Et spécialement, certainement, que ce qui aujourd'hui peut déplaire en nous, au bon Dieu, ce sont les fautes que nous avons pu commettre dans notre vie, et spécialement donc les péchés les plus volontaires. Ce qui fait le plus de mal à Dieu, ce ne sont pas nos maladresses, nos manquements, nos oublis, bien que cela aussi puisse compter, mais ce sont surtout les fautes les plus volontaires. Voyez. Et là, regardez-vous aussi, pour celles qui sont mères, vis-à-vis des enfants, je pense que même sur le moment, après, il peut y avoir un effet d'agacement si l'enfant, par exemple, a cassé un objet de valeur, mais si en soi, il était mal placé, que c'est peut-être plus une maladresse qu'une faute volontaire, c'est sûr que vous lui pardonnerez plus facilement. Mais donc les péchés, par contre, les plus volontaires, vous savez que votre enfant a fait ça volontairement, froidement, eh bien, vous, c'est sûr que vous aurez une peine plus grande. Eh bien, le bon Dieu, à notre égard, c'est la même chose. Donc, pour arriver à faire un bon examen de conscience, donc il faut spécialement regretter les péchés les plus volontaires. Et puis ensuite, après aussi, ceux qui reviennent plus souvent. Et ça, c'est pour apprendre spécialement à repérer nos points faibles. Parce que souvent, ce qui revient le plus souvent, eh bien, c'est ce qui est... Ce sont les brèches qui sont dans notre âme par lesquelles donc, le démon peut s'infiltrer plus facilement. Et puis enfin, essayer de remonter aux causes de nos chutes pour pouvoir trouver donc, les meilleurs remèdes. Donc quand on a donc, un problème de santé, c'est ce que fait le médecin. Oui. Le médecin, il essaie de savoir où est-ce que vous avez mal. Et ensuite, après, il va vous poser des questions pour essayer de savoir d'où vient le mal. Voyez. Il va essayer de retrouver la cause. Et plus il arrivera à remonter dans la cause, plus il pourra trouver des remèdes appropriés. Voyez. S'il sait qu'il y a une partie qui est détraquée, mais il ne sait pas d'où ça vient, alors c'est plus compliqué, bien sûr, pour trouver des remèdes. Voyez. Donc plus on arrive à remonter aux causes, et plus on pourra arriver à trouver des remèdes. Voyez. Et bien, dans notre vie morale, c'est exactement la même chose. Voyez. Donc dans cette analyse, il ne s'agit pas donc de ressasser uniquement le mal, donc il ne faudrait pas que ça vous conduise à un repli sur vous-même qui ne serve à rien, qui soit inutile, mais il faudrait en tout cas que ça vous aide à vous élancer davantage vers le bon Dieu. Donc il ne faut jamais séparer la vue de nos péchés de la vue de la miséricorde de Dieu. Si on voit nos péchés uniquement donc en se repliant sur soi-même, à ce moment-là, ce n'est pas bon. Mais ça, ce n'est pas le bon Dieu. Mais le bon Dieu ne nous fait pas agir comme ça. Normalement, il faudrait que dès qu'on prend conscience du péché, eh bien, qu'on s'élance vers Dieu. Et en ce moment-là, c'est le regard de Dieu qui doit nous, je dirais, nous rassurer. Mais regardez par exemple Saint Pierre. Saint Pierre a péché gravement le soir du Jeudi Saint. Donc il a renié notre Seigneur par 3 fois. Et quand même, alors qu'il avait été choisi, il était en plus le chef des apôtres. Il avait dit que quand bien même tous les autres l'abandonneraient, lui, il ne l'abandonnerait pas. Enfin, il était un peu trop sûr de lui, certainement. Mais donc, il l'a renié par 3 fois. Et puis, finalement, lorsque notre Seigneur l'a rencontré, vous voyez, eh bien, il a, donc, juste après son péché, il a croisé le regard de notre Seigneur. Et en croisant son regard, il a tout compris. Vous voyez. Il a compris la gravité de son péché, mais il a en même temps compris aussi la miséricorde de notre Seigneur. Vous voyez. Et c'est pour ça qu'il est dit que Saint-Pierre pleura amèrement. Voyez. Donc il y a eu ce croisement de regard entre notre Seigneur et Saint-Pierre. Et en voyant notre Seigneur, donc, il a eu cette lumière sur la gravité de sa faute, mais en même temps aussi, il a eu cette confiance en notre Seigneur. Alors que Judas, qui est allé se pendre, eh bien, il a reconnu qu'il avait péché, il a même été restitué ensuite les 30 pièces d'argent, il les a jetées dans le temple, mais ensuite il est allé se pendre. Donc lui, il est resté replié sur lui. Il n'est pas allé voir notre Seigneur. Donc ce qu'il faut, c'est chaque fois que nous faisons un examen de conscience, d'apprendre à faire cet examen de conscience en présence de notre Seigneur. Oui. Notre Seigneur qui est Dieu, infiniment parfait. Donc une des 3 personnes divines que nous avons donc contemplées donc, ce matin dans le sermon. Mais en même temps aussi qui est infiniment proche de nous. Et qui nous aime mieux que quiconque. Et qui n'a qu'un désir, bien sûr, c'est de nous ramener dans le droit chemin. Notre Seigneur est... Il est mort pour nous, pour ça, sur la croix. Alors, pour terminer, donc, dans l'examen de conscience aussi, donc pour faire un examen de conscience, il est bon de regarder les différents types de péchés que nous pouvons commettre. Donc, il y a les péchés par rapport à Dieu, les péchés par rapport au prochain, et les péchés par rapport à nous-mêmes. Donc par rapport à Dieu, eh bien, c'est tout ce qui touche nos prières déjà, donc les prières qu'on peut oublier, les prières qui sont trop routinières, qui sont machinales, le fait peut-être d'être trop attaché à certaines dévotionnettes et pas suffisamment à une union profonde avec Dieu. Dans nos rapports avec Dieu, il peut y avoir aussi les manques de confiance qui rentrent en ligne de compte aussi, ou les scrupules, donc le fait d'être une nature inquiète et de ressasser donc des choses qui n'en valent pas la peine. Ensuite, les fautes par rapport au prochain. Donc là, il y a les. Faut voir un petit peu quel est votre état de vie. Donc, suivant que vous êtes célibataire ou marié, suivant que vous êtes jeune ou moins jeune, donc c'est sûr que les types de péchés peuvent être différents. Donc, essayez de voir donc ce qui peut toucher, spécialement ceux qui sont les plus proches de vous. Donc, les manques d'unité peut-être entre conjoints, les problèmes avec certains enfants ou avec des problèmes après avec la belle-mère aussi, ou la belle-fille. La question après aussi des péchés de la langue. On dit que celui qui ne pêche pas par la langue est un homme parfait. Et il n'y a pas beaucoup d'hommes parfaits, c'est sûr. C'est hélas. Après aussi, donc, tout ce qui peut toucher donc l'esprit d'indépendance. On a du mal aujourd'hui aussi à vivre vraiment pleinement à notre place, quoi. Donc on a tous cet esprit d'indépendance. Ou aussi, après, les manques de soit de support mutuel, ou alors les plaintes aussi continuelles qui nous empêchent d'être le soleil. Normalement, la femme, c'est le soleil du foyer. Donc, il y a parfois peut-être des orages ou des... Le temps est peut-être parfois plus couvert. Ensuite, les mensonges aussi, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Et puis aussi, de faire très attention à la rancune. Le papy douce, par exemple, conseille aux jeunes ménages, il leur dit de dire toujours le soir avant de se coucher à notre Père, au pied du lit. Et je pense que c'est très bien, ou en famille, ou même aussi dans la prière du soir, d'en dire au moins notre Père ensemble. Et c'est sûr que, bon, qu'il y ait des disputes, malheureusement, en famille, c'est malheureusement une pauvre nature humaine, mais au moins apprendre à ne pas se coucher sur sa colère. Quoi. Parce qu'après, si on broie du noir, vous voyez, c'est ça qui est mauvais. C'est qu'on ressasse ensuite le mal. Et comme la femme est plus sensible que l'homme encore, ça lui est, je pense, plus difficile de pardonner. Alors maintenant, il y a une distinction entre pardonner et ressentir le mal, vous voyez. Vous pouvez ressentir le mal tout en ayant pardonné. Donc quand on vous demande de pardonner, on ne vous demande pas donc, de ne plus rien ressentir. C'est normal qu'il y ait des sentiments négatifs vis-à-vis de ceux qui ont pu nous faire du mal. Enfin, au départ, c'est notre nature. Mais il faut apprendre à surmonter justement ces sentiments par des actes de volonté qui sont dans le sens de ce que le bon Dieu veut nous ouvrir. Et le signe que vous avez déjà mis un pas dans le bon sens, c'est le fait que vous soyez prêt déjà à prier pour cette personne. Le fait de prier pour quelqu'un qui nous a fait du mal, c'est déjà le premier pas en tout cas à mettre en avant. Parce que normalement, vous voyez, on dit que la foi consiste à adhérer donc à toutes les vérités catholiques. Donc celui qui refuse une seule vérité catholique, il n'a plus la foi. Il est hérétique. Donc ça vient du grec aéréo qui veut dire je choisis. Donc celui qui dans le dogme catholique choisit certaines vérités et en refuse d'autres, il n'a pas la foi. Parce que la foi catholique, comme dit le pape Benoît XV, on la professe intégralement ou pas du tout. Et bien de la même manière, la charité, c'est exactement la même chose. La charité, une caractéristique de la charité, c'est d'être universelle. Donc on doit aimer tous les hommes. Maintenant, aimer tous les hommes ne veut pas dire faire du bien à tous les hommes, parce que notre budget est limité, notre temps est limité, etc. Et notre champ d'action est limité. Mais on ne doit exclure personne de notre charité. Et donc c'est la raison pour laquelle, si on a notre cœur fermé vis-à-vis d'une personne, eh bien il faut faire très attention et profiter de cette retraite pour purifier cela. Parce que vous voyez, notre Seigneur nous connaît bien, il nous a demandé une prière qui est courte. La prière par excellence, elle est très courte. Notre Père, c'est court, hein, il ne faut pas des heures pour cela. Et pourtant, tout est dit, vous voyez. Et dans cette prière, pourquoi notre Seigneur, dit-il, nous fait-il dire tous les jours, donc justement, pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Parce qu'il sait que c'est ça, c'est la pierre d'achoppement. C'est ça qui est le plus difficile dans notre vie, certainement, hein, donc bon, à certains moments dans la vie, c'est cela. Parce que lorsque quelqu'un nous fait du mal, pour être capable de bien réagir, il faut la grâce. Parce que face au mal, on réagit mal. Et quand quelqu'un nous a fait beaucoup de mal, pour être capable de surmonter tout cela, ben, il faut vraiment une grâce puissante. Et donc, notre Seigneur, sachant très bien que cette difficulté que nous avons, eh bien, nous a déjà donné l'exemple. Et la première parole de notre Seigneur sur la croix, c'est « Père, pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et en même temps, il nous a commandé donc, de faire cette prière. Donc apprendre pour éviter que le mal ne prenne racine en nous, donc savoir pardonner, et puis ensuite après pour être capable de d'effacer donc ce qui peut y avoir de négatif en nous, donc être capable de prier pour ces personnes, et puis après de mettre petit à petit, bon, d'espérer que les choses se remettent en place. Mais il s'agit bien d'un amour de volonté. Parce qu'en latin, il y a deux termes, vous voyez, le terme amare et le terme diligere, qui ont des sens un petit peu différents. Amare en latin veut dire affectionné. Eh bien, notre Seigneur ne nous a pas dit amate di inimicos vestros. Hein. Il nous a dit diligite inimicos vestros. Il ne nous a pas demandé d'affectionner nos ennemis. Nos ennemis, on ne peut pas les affectionner en soi. Mais il nous a dit de les aimer d'un amour de volonté. Et c'est donc quelque chose de différent. Donc il s'agit de poser un acte de volonté dans le sens contraire, ben de, justement, de cette répulsion que nous avons donc spontanément. Ensuite, après aussi, donc vis-à-vis du prochain, il peut y avoir donc nos impatiences, la colère, le refus du dû conjugal, donc l'usage des contraceptifs, des avortements, ou alors toutes les attitudes équivoques aussi que nous avons pu avoir vis-à-vis de certaines personnes, bon, le manque de modestie dans les vêtements, les fréquentations douteuses, le manque de vigilance dans l'éducation des enfants, donc le fait d'être éveillé en fonction de l'âge des enfants pour les former, pour éviter qu'ils ne fassent n'importe quoi ou qu'ils voient n'importe quoi, donc les parents ont un rôle très important. Et sûr qu'après un certain âge, c'est très délicat l'éducation. Au début, il faut être certainement plus strict. Après, à l'âge de l'adolescence, il faut être plus souple. Mais souvent, à l'inverse, c'est au moment où l'enfant commence à déraper. Donc, alors, à ce moment-là, on est plus dur. Mais alors, à ce moment-là, du coup, l'enfant s'en va encore davantage. L'adolescence n'est pas une période facile à gérer. Mais c'est sûr que c'est les premières années qu'il faut profiter quand l'enfant est plus petit. C'est à ce moment-là qu'il faut donner les bons principes. Et ensuite, après, il faut essayer de garder contact, autant qu'on peut en tout cas, faire en sorte que le courant puisse passer. Donc, il faut lâcher du lest, mais tout en ayant l'œil ouvert. Parce que sinon, après, je suis sûr que les enfants peuvent très bien abuser de si on les laisse au moment où ils sont encore fragiles, où les passions commencent à s'éveiller, il faut faire très attention. Ensuite, après, il y a aussi des fautes par omission, donc vis-à-vis des proches, donc manque de soutien, donc... Et puis par rapport à nous-mêmes, il y a notre emploi du temps, donc on verra ça dans la deuxième partie de la retraite, donc c'est un petit peu la gestion du temps au début dans les résolutions pour apprendre à avoir une vie féconde. Donc toutes nos désorganisations, les pertes de temps, la paresse. Et puis après aussi veiller à bien prendre conscience des chemins qui peuvent mener à l'impureté. Aujourd'hui on vit dans un monde, c'est certainement plus dur qu'à d'autres moments, parce que à la fois l'homme moderne est beaucoup plus sensible et plus fragile de ce côté-là, et puis aussi parce que les tentations, il faut reconnaître, sont beaucoup plus importantes, parce que la société étant plus dépravée, c'est sûr que les tentations sont plus importantes. Donc d'un certain côté, bon, les âmes bien-nées ont une répulsion pour tout ce qui... va dans le sens du mal. Mais d'un autre côté, il y a aussi le vieil homme qui est là, donc c'est pas toujours facile d'arriver à rester fidèle. Monseigneur Lefebvre, qui avait aussi une bonne connaissance de la nature humaine, il disait que dans le domaine de la pureté, il disait que peu de personnes, si on prenait leur vie tout entière, peu de personnes restent fidèles dans ce domaine et ne pêchent pas gravement. Quoi. Donc, c'est-à-dire que la plus grande partie, malheureusement, des personnes, un jour ou l'autre, tombent dans des fautes graves dans ces domaines. Donc faire attention spécialement à la curiosité, donc qui peut ensuite éveiller ensuite conduire à des choses mauvaises, les rêveries sentimentales, donc il faut faire très attention. Donc ne pas les alimenter, quoi. Donc pour ça, il faut avoir toujours un emploi du temps bien défini, donc éviter l'oisiveté, faire attention mais sur aux fréquentations. Le pape Pie XII aussi disait. Donc il s'adressait à des jeunes ménages et il disait aux hommes, alors maintenant vous pouvez faire la transposition aujourd'hui en imaginant ce qu'il pourrait dire aujourd'hui. Hein. Donc c'était un fin psychologue aussi, il connaissait bien la nature humaine. Donc il disait aux hommes, faites attention à ce que vos femmes ne lisent pas trop de romans. Et il donnait comme motif le fait que la femme plus que l'homme a encore la capacité de s'identifier donc aux personnages importants, donc quand elle lit un livre. Et puis du coup, après, à force de vivre dans cet univers donc imaginaire, il y a un désir après, un jour ou l'autre, de retransposer dans la vie ce qu'elles ont vu, quoi. Donc, et alors là, ça peut devenir très grave, bien sûr. Parce que plus on vit dans l'imaginaire, et plus la vie réelle, vous voyez, peut paraître terne, vous voyez. Et alors là, ça devient grave, parce qu'on s'écarte vraiment du droit chemin. Il faut se dire qu'il faut apprendre à aimer en fait la vie sur terre telle qu'elle est, et surtout à aimer le ciel tel qu'il est. Donc accepter la part de croix que le bon Dieu nous donne pour nous sauver, donc accepter, donc il y a du positif et du négatif dans la vie, hein, donc, mais il faut surtout regarder le positif pour accepter le négatif. Si on regarde que le négatif, alors c'est sûr que la vie ne paraît pas très drôle. Hein. Donc il faut voir le positif pour avaler le négatif, pour accepter le négatif de la vie. Et donc par là, apprendre à aimer cette vie, donc apprendre à aimer la part de croix que le bon Dieu nous donne. Par exemple, si je vous posais la question, est-ce que vous êtes contente de Dieu ? Je ne demande pas, est-ce que le bon Dieu est content de vous ? Je dis, est-ce que vous êtes contente de Dieu ? Alors si vous dites, ouais, bah, je trouve que ouais, pour moi, un peu il exagère, quoi, parce que ma croix, enfin, s'il savait un petit peu, bon, il pourrait quand même un peu me ménager davantage. Ah, dites-vous bien, vous n'êtes pas tout à fait dans la ligne, vous voyez. Normalement, il faut apprendre à être content de Dieu. Voyez. Merci Seigneur, donc il fait beau aujourd'hui, je suis à Flavigny, j'ai la chance de faire une retraite. Voilà. Après, bien sûr que j'ai des difficultés. Bon, je ne suis pas parfaite, j'ai des difficultés. Mais voir le positif. Parce que pensez que c'est toujours le positif qui vous fera avaler le négatif. Donc apprendre à accepter la vie telle qu'elle est, apprendre à accepter ma croix donc, telle qu'elle est, m'apprendre à m'accepter moi-même tel que je suis, avec mes qualités et mes défauts. Et puis ensuite, après aussi, si vous, le bon Dieu permet que vous rêviez, mais alors rêvez en ce moment-là de belles choses. Rêvez au ciel. Le ciel est, on a la chance que le ciel est quelque chose de réel. Il n'y a rien de plus beau que le ciel. Donc vous pouvez rêver au ciel. Et puis après aussi, donc faire attention aussi à certaines musiques qui peuvent suralimenter aussi ces rêveries sentimentales. Et puis également aussi, parfois, ce qui peut mener à l'impureté, c'est parfois un vide affectif. Donc apprendre aussi à voir de quelle manière le combler, d'une façon donc bonne, pour éviter donc ensuite après les écarts. Voilà, après il peut y avoir aussi tout ce qui touche la gourmandise, la coquetterie, les achats inutiles, la complaisance en soi-même, le découragement. Donc, ou des fautes qui n'ont pas été avouées par fausse honte aussi. Ça peut, une retraite peut être l'occasion parfois de remettre des choses en place. Des choses dont on n'a pas eu conscience aussi. Ça arrive parfois qu'à l'occasion d'une retraite, on prend plus conscience de certaines choses. Donc, il faut profiter de la confession de la retraite pour cela. Donc, vous aurez normalement une instruction sur la confession proprement dite. Là, c'était surtout sur le péché. Donc, mon but était surtout de vous aider à bien saisir ce que nous sommes. Et donc... nous sommes donc des hommes et non pas des anges. Nous avons une nature qui est affaiblie, mais en même temps aussi ennoblie. Et ensuite, de voir de quelle manière donc bien user de notre liberté en pensant que cette liberté nous a été donnée par Dieu pour faire le bien. Et donc, plus nous serons fidèles, plus nous aurons une vie qui sera paisible, agréable à Dieu et féconde. Voilà. Alors, je pense que je vais peut-être arrêter là pour ne pas être trop long. Donc, on va se rendre à la chapelle pour une petite prière.